Le frère de la côte, chapitre 5. Comme Perrol et le lieutenant l'avaient supposé en entendant le coup de canon, le navire anglais qui, la veille au soir, était à l'ancre dans la rade d'Hyères, avait mis à la voile la nuit venue. Une légère brise l'avait, au début de la nuit, amené jusqu'à la petite passe, et là l'avait abandonné au clair de lune, sous lequel, absolument immobile, il avait plutôt l'air d'un monument de pierre blanche, rapetissé par les masses sombres de la côte, que d'un bâtiment renommé pour sa vitesse au combat ou à la course. Son capitaine, un homme d'environ 40 ans, avait la figure complètement rasée, des joues pleines et des lèvres minces et mobiles qu'il serrait mystérieusement avant de parler et quelquefois aussi après qu'il avait parlé. Son allure était alerte, ses habitudes nocturnes. Dès qu'il vit que le calme prenait complètement possession de la nuit et durerait vraisemblablement encore des heures, le capitaine Vincent s'accouda à la lisse dans sa pose favorite. Il était alors un peu plus de minuit, et dans cette paix absolue, la lune glissant dans un ciel sans tache, semblait répandre son enchantement sur une planète inhabitée. Le capitaine Vincent ne s'inquiéta guère de la lune. Elle rendait, il est vrai, son navire visible des deux rives de la petite passe. Mais depuis une année ou presque qu'il commandait ce navire, qui servait d'éclaireur à la flotte de blocus de l'amiral Nelson, il connaissait l'emplacement d'à peu près tous les canons des défenses de la côte. À l'endroit où la brise l'avait laissé, il se trouvait à l'abri du plus gros des canons qu'on avait monté sur Porquerolles. Du côté de Gien, il savait de source sûre qu'il n'y avait pas la moindre pièce. Sa longue familiarité avec cette partie de la côte l'avait convaincu qu'il connaissait parfaitement les habitudes de sa population. Les lumières de leur maison s'étaient éteintes de très bonne heure et le capitaine Vincent était sûr qu'ils étaient tous couchés, y compris les canonniers des batteries, qui appartenaient à la milice locale. L'habitude leur avait fait perdre tout intérêt au mouvement de l'Amelia, corvette de 22 canons de la flotte de Sa Majesté britannique. Elle ne se mêlait pas de leurs affaires privées et laissait les bateaux de pêche de la côte aller et venir à leur guise. Ils auraient été surpris de la voir partie plus de 2 jours. Le capitaine Vincent avait coutume de dire sarcastiquement que la rade d'Hyères lui était devenue comme un second foyer. Pendant 1 heure environ, le capitaine Vincent rêva à son foyer véritable, à des affaires de service et à d'autres choses restées ignorées, puis d'un mouvement délibéré, il s'en alla surveiller lui-même l'envoi de cette embarcation dont le lieutenant Réal avait judicieusement soupçonné l'existence et qui ne faisait absolument aucun doute pour le vieux Perrol, quoique sa mission ne consistât aucunement à pêcher du poisson pour le petit déjeuner du commandant. L'extrémité de cette presqu'île, en forme de marteau, dont la partie qui regardait la mer demeurait invisible des 2 autres côtés, était un endroit rêvé pour un débarquement clandestin. Son aspect solitaire avait séduit l'imagination du capitaine qu'une remarque incidente de M. Bolt avait d'abord éveillé. Une semaine auparavant, comme l'Amelia croisait au large, Bolt, un des officiers, déclara en regardant la côte qu'il connaissait fort bien cette région. Il y avait débarqué des années auparavant, du temps où il servait dans la flotte de Lord Howe. Il décrivait la nature du sentier, l'aspect d'un petit village sur le versant opposé, et s'étendit sur le sujet d'une certaine ferme, où il était allé plus d'une fois, et où il avait même passé 24 heures de suite à plus d'une reprise. Tout cela avait éveillé la curiosité du capitaine Vincent. Il envoya chercher Bolt et eut une longue conversation avec lui. Il écouta son récit avec grand intérêt. Un jour, du pont du navire sur lequel Bolt servait alors, on avait aperçu un homme parmi les rochers qui agitait un drap ou une nappe sur le rivage. Ça aurait pu être un piège, mais comme l'homme semblait être seul et que le rivage était à portée de canon du navire, on envoya une embarcation le chercher. Et ce fut là, commandant, poursuivait Bolt gravement, la première communication que Lord Howe reçut des royalistes de Toulon. Bolt décrivit ensuite au capitaine Vincent les rencontres des royalistes avec les officiers de la flotte. Derrière la ferme, il avait lui-même bien souvent surveillé pendant des heures l'entrée du port de Toulon pour apercevoir la barque qui amenait les émissaires royalistes. À un signal convenu avec l'escadre avancée, des officiers anglais débarquaient et se rencontraient avec les Français à la ferme. Ce n'était pas plus difficile que cela. Les gens de la ferme, le mari et la femme, étaient aisés, de bonne famille et de fervents royalistes. Ils les avaient bien connus. Le capitaine Vincent demanda si les mêmes gens habitaient toujours cet endroit. Bolt ne voyait pas de raison pour qu'il en fût autrement. Il n'y avait que 10 ans de cela, et ce couple n'était pas vieux. Autant qu'il avait pu le comprendre, la ferme leur appartenait. Lui, Bolt, ne savait alors que quelques mots de français. Ce n'est que plus tard, après avoir été fait prisonnier et gardé en France jusqu'à la paix d'Amiens, qu'il avait pris une teinture du jargon. Sa captivité lui avait fait perdre ses faibles chances de promotion, ainsi qu'il ne put s'empêcher de le remarquer. Bolt était toujours lieutenant. Le capitaine Vincent, d'accord en cela avec beaucoup d'officiers de tous rangs de la flotte de Nelson, avait des doutes sur l'efficacité de ce système du blocus à distance dont, apparemment, l'amiral ne voulait pas se départir. On ne pouvait pourtant pas blâmer Nelson. Tous dans la flotte comprenaient que son dessein était de détruire l'ennemi et que si l'ennemi était bloqué de près, on ne le verrait jamais sortir pour se faire détruire. D'un autre côté, il était clair que cette méthode ne donnait que trop de chances aux Français de gagner le large à l'improviste et de disparaître pendant des mois. Ces chances-là ne cessaient d'irriter le capitaine Vincent, qui s'employait avec une ardeur passionnée à remplir la mission dont on l'avait chargé. Que n'eût-il pas donné pour avoir une paire d'yeux rivés nuit et jour sur l'entrée du port de Toulon, ou le pouvoir de constater l'état des navires français et de pénétrer les secrets des esprits français eux-mêmes. Il ne dit rien de cela à Bolt. Il se contenta de remarquer que l'esprit du gouvernement français avait changé et que celui des royalistes de la ferme pouvait avoir changé aussi, depuis qu'il leur avait été permis de reprendre l'exercice de leur religion. Bolt répondit qu'il avait eu autrefois souvent affaire aux royalistes avant et après l'évacuation de Toulon. Toutes sortes de gens, hommes et femmes, barbiers et nobles, marins et commerçants, toute espèce de royaliste imaginable, et son opinion était qu'un royaliste ne changeait jamais. Quant à l'endroit lui-même, il souhaitait seulement que le commandant l'eût pu voir. C'était un de ces endroits que rien ne peut changer, il allait même jusqu'à dire qu'il serait exactement pareil dans 100 ans. Il y avait des risques, évidemment. Pour que la chose réussît, et en supposant la ferme habitée par les mêmes gens, il était nécessaire qu'elle fût entreprise par quelqu'un qu'il connusse. Il ajouta qu'il était sûr de se faire reconnaître, et tandis qu'il s'étendait sur les relations excellentes qu'il avait eues avec les propriétaires de la ferme, particulièrement avec la maîtresse du logis, une femme avenante et maternelle qui avait été très bonne pour lui et montrait une vive intelligence, le capitaine Vincent, en regardant les épais favoris de son officier, pensait qu'il suffirait aisément à le faire reconnaître. Cette impression fut si forte qu'il lui demanda de but en blanc « Vous n'avez pas changé la forme de votre barbe depuis lors, monsieur Bolt ?» Il y eut un semblant d'indignation dans la réponse négative de Bolt, car il était fier de ses favoris. Il déclara qu'il était prêt à courir les risques les plus désespérés pour le service du roi et de la patrie. Le capitaine ajouta « Pour Lord Nelson aussi. » On comprenait bien où l'amiral voulait en venir avec ce blocus à 60 lieues de distance. Il parlait à un marin et il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Holt pensait-il pouvoir persuader ces gens de le cacher chez eux, sur cette pointe déserte de la presqu'île, pendant quelque temps? Bolt pensait que c'était la chose la plus simple du monde. Il n'aurait qu'à monter là-haut renouer connaissance, mais il n'avait pas l'intention de le faire avec témérité. Cela devait se faire la nuit, quand il n'y aurait personne aux alentours. Il débarquerait au même endroit que jadis, enveloppé dans un caban de marin méditerranéen, il en avait un, par-dessus son uniforme, et il s'en irait tout simplement frapper à la porte. Il y avait tout à parier que le fermier lui-même viendrait ouvrir. Il savait assez le français maintenant, pensait-il, pour persuader ces gens de le cacher dans une chambre qui aurait vu dans la bonne direction, et il pourrait rester là des jours aux aguets, sans prendre d'exercice autrement qu'au milieu de la nuit, ni d'autre nourriture que du pain et de l'eau, si c'était nécessaire, pour ne pas éveiller le soupçon parmi le personnel de la ferme. Et qui sait si, avec l'aide du fermier, il n'obtiendrait pas des renseignements sur ce qui se passait actuellement dans le port. De temps en temps, il pourrait descendre, au milieu de la nuit, faire un signal au navire et transmettre son rapport. Bolt exprima l'espoir de voir l'Amélia rester autant que possible en vue de la côte. Cela le réconforterait de la voir dans les parages. Le capitaine Vincent, naturellement, acquiesça. Il fit remarquer toutefois à Bolt que son poste gagnerait encore en importance si le navire devait être poursuivi ou drossé par le mauvais temps, comme cela pourrait bien arriver. « Vous seriez alors l'œil même de la flotte de Lord Nelson, monsieur Bolt. Pensez-y, l'œil même de la flotte de Lord Nelson. » Après avoir envoyé son officier accomplir cette mission, le capitaine Vincent passa la nuit sur le pont. Le lever du jour vint enfin, plus pâle que la lune qu'il remplaçait. Et toujours pas d'embarcation. Le capitaine Vincent se demandait de nouveau s'il n'avait pas agi imprudemment. Impénétrable, l'air aussi dispos que s'il ne venait que de monter sur le pont, il discuta la chose avec lui-même jusqu'à ce que le soleil levant, éclairant la cime de Porquerolles, vint darder ses rayons horizontaux sur son navire dont la rosée assombrissait les voiles et mouillait les agrès. Il se redressa pour dire à son premier lieutenant de mettre les embarcations à l'eau pour remorquer le navire. Le coup de canon qu'il avait fait tirer exprimait simplement son irritation. L'Amélia, le cap sur le milieu de la passe, avançait comme une tortue derrière le chapelet de ses embarcations. 10 minutes s'écoulèrent et tout à coup, le capitaine Vincent aperçut la yole qui revenait conformément aux ordres. Quand elle fut presque par le travers du navire, elle obliqua pour atteindre son flanc. Bolt grimpa à bord, seul, après avoir donné l'ordre d'aider au remorquage. Le capitaine Vincent l'accueillit avec un regard interrogateur. Les premiers mots de Bolt furent pour déclarer qu'il pensait que ce sacré endroit devait être ensorcelé. Puis il jeta un coup d'œil sur le groupe d'officiers réunis de l'autre côté de la dunette. Le capitaine Vincent l'emmena dans sa cabine. Il se retourna alors et considéra son officier, qui, d'air distrait, marmottait « Il y a des somnambules là-haut !»« Voyons, Bolt, que diable avez-vous vu ? Avez-vous pu approcher de la maison ?» « Je suis allé jusqu'à 20 mètres de la porte, commandant, » répondit Bolt. Et encouragé par le ton plus calme avec lequel le capitaine lui dit « Et alors ?» il commença son récit. Il n'avait pas atterri au pied du sentier qu'il connaissait, mais à une petite plage où il avait dit à ses hommes de haler la yole et de l'attendre. La plage était dissimulée du côté de la terre par d'épais buissons et par quelques rochers du côté de la mer. Puis il avait gagné ce qu'il appelait le ravin, en évitant toujours le sentier, si bien qu'il avait fait la plus grande partie du chemin à quatre pattes, lentement parmi des pierres, jusqu'à ce que, en s'accrochant à un buisson, ses yeux fussent parvenus au niveau du terrain plat qui s'étendait devant la maison. Jadis, la femme du fermier avait le sommeil léger. Les gens de la ferme, qui, il s'en souvenait, habitaient le village ou étaient répartis dans les étables, ne lui donnaient aucune inquiétude. Point n'était besoin de frapper à la porte. Il se représentait la femme du fermier assise dans son lit, prêtant l'oreille, puis réveillant son mari, qui, plus que probablement, irait prendre le fusil placé contre le dressoir et viendrait à la porte. Et alors, tout irait bien. Mais peut-être, oui, il était plus que probable que le fermier ouvrirait la fenêtre pour parlementer avec lui. C'était vraiment plus que probable. Naturellement. À sa place, Bolt pensait qu'il aurait agi ainsi. Oui, c'est ce qu'un homme, dans une maison isolée, au milieu de la nuit, ferait tout naturellement. Et il s'imaginait murmurant mystérieusement ses réponses, le long du mur, aux questions qu'on lui poserait. « Ami, Bolt, ouvrez-moi, vive le roi !» ou quelque chose de ce genre. La force de ces images convainquit Bolt que le mieux à faire était de lancer de petites pierres contre les volets de la fenêtre, juste de quoi réveiller un dormeur au sommeil léger. Il ne savait pas exactement laquelle des fenêtres du premier étage était celle de la chambre de ces gens. En tout cas, il n'y en avait que 3. Il allait se hisser jusqu'au terrain plat, lorsque, ayant levé les yeux pour regarder de nouveau la façade de la maison, il avait découvert qu'une des fenêtres était déjà ouverte. Comment ne s'en était-il pas aperçu plus tôt? Il ne pouvait se l'expliquer. Il déclara au capitaine Vincent, au cours de son récit, « Cette fenêtre ouverte, commandant, m'arrêta net. En fait, cela ébranla ma confiance, car vous savez, commandant, qu'aucun des naturels de ce pays n'aurait idée de dormir la fenêtre ouverte. J'eus l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et je restais où j'étais. » Cette impression charmante de paix et de sympathie que dégage une maison la nuit avait été dissipée du coup. Une simple fenêtre ouverte, un carré noir dans un mur éclairé par la lune, et la maison avait pris l'aspect d'un piège. Bolt affirma au capitaine Vincent que la fenêtre ne l'aurait pas arrêté. Il aurait continué tout de même, quoique avec quelque incertitude. Mais tandis qu'il réfléchissait, il vit glisser sans bruit devant ses yeux irrésolus, et sortant d'on ne sait où, une blanche vision, une femme. Il pouvait distinguer les cheveux noirs qui lui tombaient dans le dos. Une femme que tout le monde aurait prise pour un fantôme. Je ne vous dirai pas, commandant, que mon sang ne fit qu'un tour, mais un moment je me sentis glacé. Bien des gens ont vu des fantômes, du moins ils le disent, et je n'ai pas de parti pris là-dessus. Elle avait un air étrange au clair de lune. Elle ne marchait pas comme une somnambule. Si elle n'était pas sortie d'une tombe, elle avait dû bondir hors de son lit. Quand elle rebroussa chemin pour aller se poster au coin de la maison, je vis bien que ce n'était pas un fantôme. Elle n'avait pas pu me voir. Elle resta là, dans l'ombre, à épier quelque chose, ou à attendre quelqu'un, ajouta Bolt, l'air sinistre. « Elle avait l'air d'une folle, » ajouta-t-il charitablement. Il n'y avait de clair pour lui qu'une seule chose, c'était que des changements étaient survenus dans cette ferme depuis qu'il n'y était venu. Bolt s'en montra indigné, comme s'il se fût agi seulement de la semaine précédente. La femme postée au coin de la maison restait là, aux aguets, comme si elle n'attendait que de le voir se montrer, pour se mettre à courir en criant et à réveiller tout le pays. Bolt eut vite conclu que le mieux était de se laisser glisser sur la pente. En changeant de position, il eut le malheur de faire rouler une pierre. Cette circonstance avait précipité sa retraite. En quelques minutes, il s'était retrouvé près du rivage. Il s'était arrêté pour prêter l'oreille. Au-dessus de lui, au haut du ravin et tout autour, parmi les rochers, tout était parfaitement tranquille. Il se dirigea vers son canot. Il n'y avait rien d'autre à faire que de s'éloigner tranquillement, et peut-être... « Oui, monsieur Bolt, j'ai peur qu'il nous faille abandonner notre plan, » interrompit le capitaine Vincent. Bolt acquiesça comme à regret, et il s'enhardit jusqu'à déclarer que cela n'était pas le pire. Et devant l'air étonné du commandant, il se hâta de révéler ce que c'était. Il était vraiment désolé, il ne pouvait absolument pas s'expliquer, mais il avait perdu un de ses hommes. Le capitaine Vincent sembla n'en pas croire ses oreilles. « Qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez perdu un homme de l'équipage de mon canot ?» Il n'en revenait pas. Bolt, de son côté, se montrait vraiment affligé. Il raconta que, peu après qu'il les eut quittés, les hommes avaient entendu ou cru entendre des bruits faibles et singuliers quelque part dans la crique. Le patron avait envoyé un des hommes, le plus vieux de l'équipage, le long du rivage pour voir si de l'autre côté de la crique on pouvait apercevoir la yole qu'on avait tirée sur la grève. L'homme, c'était Simons, était parti à quatre pattes faire le tour de l'anse, et puis il n'était pas revenu. C'était la raison pour laquelle ils avaient tant tardé à rallier le navire. Bolt, naturellement, ne voulait pas abandonner un de ses hommes. Il était inconcevable que Simons eût déserté. Il avait laissé son coutelas et était absolument sans armes. Mais même s'il avait été surpris, il aurait pu pousser un cri qu'on aurait entendu d'un bout à l'autre de la crique. Pourtant, jusqu'au lever du jour, il n'avait régné sur la côte qu'un profond silence, au milieu duquel on aurait entendu un murmure, semblait-il, à des lieues de là. On eût dit que Simons avait été enlevé, par quelque moyen surnaturel, sans lutte et sans cri. Car il était inconcevable qu'il se fût aventuré à l'intérieur et se fût fait prendre. Il était également inconcevable qu'il y eût eu, cette nuit-là précisément, des gens prêts à fondre sur Simons et à l'assommer assez rapidement pour ne pas lui laisser même le temps de pousser un gémissement. « Voilà qui est fantastique, monsieur Bolt !» s'écria le capitaine Vincent. « Mais pas beaucoup plus que votre histoire de femme. Je suppose que vous avez vraiment vu quelque chose de réel. Je vous assure, commandant, qu'elle est restée là, en plein clair de lune, pendant 10 minutes à 20 pas de moi, » protesta Bolt, l'air désespéré. Elle semblait être juste sortie de son lit pour surveiller la maison. Si elle avait un jupon par-dessus sa chemise de nuit, c'était tout. Elle me tournait le dos. Quand elle s'est éloignée, je n'ai pas pu bien distinguer son visage. Et puis, elle est allée se poster dans l'ombre de la maison. « En observation, » suggéra le capitaine Vincent. « Cela en avait l'air, commandant, » avoua Bolt. « Il devait donc y avoir quelqu'un dans les abords de la maison, conclut le capitaine Vincent avec assurance. « C'est probable, » murmura Boult comme à regret. Il avait appréhendé des tas d'ennuis à cause de cette aventure et se sentit soulagé devant l'attitude tranquille du capitaine. « J'espère, commandant, que vous m'approuverez de n'avoir pas essayé d'aller tout de suite à la recherche de Simons. Oui, vous avez agi prudemment en ne vous avançant pas dans les terres, » répondit le capitaine. Je craignais de tout gâter en révélant notre présence sur le rivage. Et nous n'aurions pas pu l'éviter. En outre, nous n'étions que 5 en tout et pas très bien armés. Notre plan a échoué par la faute de votre somnambule, monsieur Boult, déclara sèchement le capitaine Vincent. Mais il faut essayer de savoir ce qu'est devenu notre homme, si on peut le faire sans trop de risques. En débarquant en force la nuit prochaine, on pourrait entourer la maison, proposa Boult. Si nous y trouvons des amis, c'est bel et bien. Si ce sont des ennemis, alors nous pouvons en emmener quelques-uns à bord pour faire un échange. Je regrette presque de n'être pas retourné enlever cette donzelle, ajouta-t-il en fureur. Ah, si seulement ça avait été un homme. Il y avait sans doute un homme pas très loin, reprit le capitaine Vincent. Cela va bien, monsieur Boult. Vous ferez bien d'aller prendre un peu de repos maintenant. Boult ne se le fit pas dire deux fois, car il était las et affamé après son déplorable échec. Ce qui le contrariait le plus, c'était l'absurdité de son équipée. Le capitaine Vincent, bien qu'il n'eût pas fermé l'œil de la nuit, se sentait trop agité pour rester en bas. Il suivit son officier sur le pont. Le frère de la côte, chapitre 6. Pendant ce temps, on avait remorqué l'Amélia à environ un demi-mille du cap Estérel. Ce changement de position l'avait rapproché des deux observateurs qui, à flanc de colline, eussent été parfaitement visibles du pont du navire si la tête du pin n'eût dissimulé leur mouvement. Le lieutenant Réal, ayant à califourchon suivi le tronc rugueux aussi loin qu'il le pouvait, avait maintenant tout le pont du navire anglais dans le champ de la lorgnette de poche qu'il braquait entre les branches. « Le capitaine vient de monter sur le pont, » dit-il tout à coup à Pérol. Celui-ci, assis au pied de l'arbre, ne répondit rien. Une chaude torpeur envahissait la terre et semblait peser sur ses paupières. Mais, intérieurement, le vieux Forban était bel et bien éveillé. Sous son masque d'immobilité, et en dépit de ses yeux à demi fermés et de ses mains paresseusement croisées, il entendit parfaitement le lieutenant perché tout contre la tête de l'arbre, qui comptait à mi-voix « 1, 2, 3 », puis s'écria « Parbleu !» après quoi il se dégagea du tronc à reculons. Pérol s'écarta pour lui faire place et ne put s'empêcher de lui demander « Que se passe-t-il » « Je vais vous dire ce qu'il y a, » répondit l'autre. Dès qu'il fut sur ses pieds, il rejoignit Pérol et, une fois près de lui, se croisa les bras sur la poitrine. « La première chose que j'ai faite, ça a été de compter les embarcations dehors. Il n'en restait pas à bord. Je viens de les compter de nouveau et j'en ai trouvé une de plus. Ce navire avait un canot dehors hier soir. Comment ne l'ai-je pas vu déborder de dessous la côte? Je n'en sais rien. Je surveillais le pont, je suppose, et il semble être allé directement jusqu'à la remorque. Mais j'avais raison. Ce navire avait une embarcation dehors. Il prit tout à coup Pérol par les épaules. « Je crois que vous le saviez depuis longtemps. Vous le saviez, je vous dis. » Pérol, que l'officier secouait, leva les yeux pour regarder le visage furieux tout près du sien. Son regard lassé ne trahissait ni crainte ni honte, mais de la perplexité et un évident intérêt. Il resta passif et se contenta de dire « Doucement, doucement !» Le lieutenant lâcha Pérol sur une dernière secousse qui faillit le faire chanceler. Aussitôt relâché, celui-ci continua en manière d'explication « Car le terrain est glissant ici. Si j'avais perdu l'équilibre, je n'aurais pas pu m'empêcher de me raccrocher à vous, et nous aurions dégringolé tous deux cette falaise, ce qui en aurait dit plus à ces Anglais que 20 canots n'en pourraient découvrir en autant de nuits. » Le ton tranquille de Pérol intimida quelque peu le lieutenant Réal. Rien ne pouvait l'ébranler. Physiquement même, il eut l'impression que son effort était parfaitement inutile. Autant aurait valu secouer un rocher. Il se laissa glisser négligemment à terre en disant « Par exemple ?» Pérol se baissa avec une lenteur qui s'accordait avec ses cheveux gris. Vous ne supposez tout de même pas que, de 120 perdus à bord de ce navire, il n'y en ait pas eu au moins une douzaine qui scrutent le rivage. Voir dégringoler deux hommes du haut d'une falaise aurait été un spectacle saisissant. Ces Anglais y auraient trouvé assez d'intérêt pour envoyer fouiller nos poches, et morts ou seulement à moitié morts, nous n'aurions guère pu les en empêcher. Cela n'aurait pas beaucoup d'importance pour moi. Je ne sais quel papier vous pouvez bien avoir dans vos poches, mais il y a vos pattes d'épaule, votre uniforme. Je ne porte pas de papier dans mes poches, et... Une pensée sembla frapper soudainement le lieutenant, une pensée si intense que l'effort mental qu'il fit lui donna un moment l'air absent. Il se secoua et poursuivit. Les pattes d'épaule n'auraient pas été en elles-mêmes une grande révélation. Non, peut-être pas, mais assez pour montrer au capitaine qu'on le surveillait. Le lieutenant se ressaisissait. « Des papiers dans ma poche, murmura-t-il. Ce serait un moyen excellent. » Ses lèvres, en se rejoignant, esquissèrent un sourire légèrement sarcastique, tandis qu'il vit Perrol lui jeter un regard de côté, avec un étonnement évidemment provoqué par l'inexplicable caractère de ses paroles. « Je parie, dit le lieutenant, que depuis le premier jour où je suis venu ici, vous vous êtes cassé la tête pour découvrir mes motifs et mes intentions. » Perrol répondit simplement, « Vous êtes d'abord venu ici en service commandé, et puis vous êtes revenu parce que, même dans la flotte de Toulon, un officier a parfois quelques jours de congé. Quant à vos intentions, je n'en dirai rien, spécialement à mon endroit. » Il y a 10 minutes, n'importe qui aurait pensé qu'elle n'était pas très amicale. Le lieutenant se redressa soudainement. À ce moment, la corvette anglaise, en s'éloignant de la terre, était devenue visible, même de l'endroit où ils étaient assis. « Regardez !» s'écria Réal. « On dirait qu'elle va de l'avant, malgré ce calme. » Perrol, surpris, leva les yeux et vit l'Amélia qui, dégagée du bord de la falaise, traversait la passe. Toutes ces embarcations étaient au long du bord, et pourtant, comme Perrol put s'en convaincre en la fixant attentivement, elle n'était pas immobile. « Elle va de l'avant, c'est indéniable. Elle va de l'avant. » Regardez la tache blanche de cette maison sur Porquerolles. Là, la pointe de son bout de heure arrive dessus. Dans un moment, son phare avant va nous la masquer. « Je ne l'aurais jamais cru, » murmura le lieutenant, après avoir regardé fixement le navire. « Et regardez, Perrol, regardez, l'eau n'a pas une ride. » Perrol, qui s'abritait les yeux du soleil, laissa retomber sa main. « Oui, » dit-il, « elle obéirait au souffle d'un enfant mieux qu'une plume. » Et les Anglais s'en sont vite aperçus après l'avoir prise. Ils l'ont prise à Gênes quelques mois seulement après que je suis revenu prendre mon mouillage ici. « Je l'ignorais, » murmura le jeune homme. « Ah, lieutenant, » dit Perrol en appuyant son doigt sur sa poitrine, « ça fait mal là, n'est-ce pas? Il n'y a que de bons Français ici. Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir de voir ce pavillon-là à la tête du mât? Regardez, on la voit tout entière maintenant. » Regardez, son pavillon qui pend comme s'il n'y avait le moindre souffle. Il tapa du pied. Et pourtant, elle avance. Ceux qui à Toulon pensent la prendre, morte ou vive, feront bien d'y réfléchir à deux fois, de faire leur plan sérieusement et de s'assurer des hommes capables de les réaliser. On en a parlé à l'amirauté, à Toulon, dit Réal. Perrol secoua la tête. Ce n'était pas la peine de vous envoyer ici, dit-il. Voilà un mois que je la surveille, elle et l'homme qui la commande. Je connais tous ses tours et toutes ses habitudes maintenant. Cet homme-là est un marin, il n'y a pas à dire. Mais je sais d'avance ce qu'il fera dans un cas donné. Le lieutenant Réal s'allongea sur le dos, les mains croisées derrière la tête. Il pensait que le vieux ne se vantait pas. Il en savait long sur ce navire anglais, et si l'on tentait de le capturer, on ferait bien de prendre son avis. Néanmoins, dans ses rapports avec le vieux Perrol, le lieutenant Réal souffrait d'éprouver des sentiments contradictoires. Réal était le fils de ci-devant, petite noblesse de province, qui avait laissé leur tête sur l'échafaud la même semaine. Quant à leur fils, il avait été confié, par ordre du délégué du comité révolutionnaire de la ville, à un menuisier pauvre, mais bien intentionné, qui ne put pas lui acheter des souliers pour faire ses courses, mais qui traita avec bienveillance cet aristocrate, ce qui n'empêcha pas l'orphelin de s'enfuir au bout d'un an et de s'engager comme mousse sur un des navires de la République qui appareillait pour une expédition lointaine. À la mer, les choses lui apparurent sous un autre angle. Au cours d'environ 8 années, réprimant ses facultés d'amour et de haine, il avait atteint le rang d'officier grâce à son seul mérite, et il s'était accoutumé à considérer les hommes avec scepticisme, sans beaucoup de mépris ni beaucoup de respect. Il n'avait de principe que professionnel, et n'avait de sa vie jamais eu une amitié. Plus infortuné en cela que le vieux Pérol, qui avait connu au moins les liens illégaux des frères de la côte. Il était, naturellement, maître de lui. Pérol, qu'il avait été fort étonné de trouver installé sur cette presqu'île, était le premier être humain qui lui fait se départir de cette réserve que la nature précaire des choses avait imposée à cet orphelin de la Révolution. La frappante personnalité de Pérol n'avait pas manqué d'éveiller l'intérêt de Réal, une sympathie méfiante, mêlée à un mépris d'une espèce purement doctrinaire. Il était évident que cet homme avait dû jadis être quelque chose comme un pirate. C'était là un genre de passé qui ne pouvait guère sembler recommandable à un officier de marine. Toujours est-il que Pérol avait eu raison de cette réserve, et les particularités de tous les gens de la ferme, l'un après l'autre, avaient passé par cette brèche. Le lieutenant Réal, étendu sur le dos, les yeux fermés pour se garantir de l'éclat du soleil, méditait au sujet du vieux Pérol, tandis que Pérol lui-même, sa tête blanche découverte en plein soleil, avait l'air de veiller un cadavre. Ce qui, chez cet homme, frappait le lieutenant Réal, c'était sa faculté d'intuition. Les rapports de Réal avec la ferme de la Presqu'île avaient été tels que Pérol l'avait dit. D'abord en service commandé pour établir un poste de signaux, puis, une fois ce projet abandonné, des visites volontaires. N'appartenant à aucun navire de la flotte, mais occupé à l'arsenal, le lieutenant Réal avait passé à la ferme quelques congés assez courts et n'aurait pu dire s'il y était venu pour son service ou en permission. Il n'aurait pu, ni peut-être voulu, se dire à lui-même pourquoi il y était venu. Ses fonctions l'ennuyaient. Il ne savait où aller. Était-ce Pérol qu'il était venu voir ? Une entente muette, soupçonneuse et méfiante, s'était établie imperceptiblement entre lui et ce vieux Forban, qui eût semblé n'être venu là que pour y mourir si toute sa robuste personnalité et sa vitalité tranquille n'avaient contredit l'idée même de la mort. Ce Forban agissait comme s'il avait le temps entier à sa disposition. Pérol se mit soudain à parler en regardant droit devant lui, comme s'il s'adressait à l'île de Porquerolles à 8 000 de là. « Oui, je connais tous ces mouvements, et pourtant je dois dire que cette façon de raser notre presqu'île est quelque chose de nouveau. » « Oui, du poisson pour le déjeuner du commandant, » marmonna Réal sans ouvrir les yeux. « Où est-elle maintenant ?»« Au milieu de la passe, hissant dardard ses embarcations, et gardant son air. Ce navire aurait de l'air, tant que la flamme d'une chandelle sur le pont ne resterait pas droite. C'est un navire merveilleux. Il est de construction française, dit le vieux Pérol avec amertume. Il y eut un long moment de silence, puis le lieutenant reprit avec un air d'indifférence. Vous semblez très affirmatif. Comment le savez-vous? Voilà un mois que je le regarde. Quel que soit le nom qu'il ait eu, ou de quelque nom que les Anglais l'appellent maintenant, avez-vous jamais vu un navire construit en Angleterre avoir un avant comme cela? Le lieutenant resta silencieux comme s'il avait perdu tout intérêt à la chose et qu'il n'y eût rien eu qui ressemblât à un navire de guerre anglais à moins 1 000 de là. Pourtant, il ne cessait de réfléchir. On lui avait parlé confidentiellement d'une certaine mission à remplir d'après les instructions reçues de Paris. Ce n'était pas exactement une opération navale, mais une mission de la plus grande importance. Le risque n'en était pas tant mortel que particulièrement odieux. De quoi faire reculer un homme brave? Il y a des risques, non pas de mort, qui feraient reculer sans honte un homme résolu. Avez-vous jamais goûté de la prison, Pérol? Demanda-t-il tout à coup, en prenant un ton somnolent. Pérol poussa presque un cri. Bonté divine! Non! De la prison? Que voulez-vous dire par prison? J'ai été prisonnier chez les sauvages, ajouta-t-il en se calmant. Mais c'est une très vieille histoire. J'étais jeune et extravagant alors. Plus tard, devenu homme, j'ai été esclave chez le fameux Ali Kassim. J'ai passé 15 jours bras et jambes enchaînés dans la cour d'un fortin sur la côte du golfe Persique. Nous étions à peu près une vingtaine de frères de la côte, logés à la même enseigne, à la suite d'un naufrage. Oui, le lieutenant parlait toujours languissamment, et je crois bien que vous êtes tous entrés au service de ce vieux pirate sanguinaire. Il n'y avait pas un seul de ces milliers de moricauds qui aurait pu charger un fusil proprement. Mais Ali Kassim faisait la guerre comme un prince. Nous mîmes à la voile une flotte régulière, nous franchîmes le golfe, nous prîmes une ville quelque part sur la côte d'Arabie et nous la mîmes au pillage. Alors, moi et les autres, nous fîmes en sorte de nous emparer d'un boutre armé et nous nous frayâmes, en combattant, un passage à travers cette flotte de moricauds. Plusieurs d'entre nous sont morts de soif par la suite. Tout de même, ce fut une grande affaire. Que venez-vous me parler de prison? Un homme digne de ce nom, si on lui donne une chance de se battre, peut toujours se faire casser la tête. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends, répondit le lieutenant d'une voix traînante. Je crois que je vous connais bien. Je suppose qu'un an de prison anglaise... Quel horrible sujet de conversation, interrompit Pérol. Le silence devint alors si pénible entre les deux hommes qu'ils se levèrent d'un même mouvement. Le lieutenant se mit vivement sur pied. Pérol mit plus de temps et de dignité à se relever. Ils demeurèrent debout côte à côte, incapables de détacher leurs regards avides du navire ennemi qu'ils apercevaient à leurs pieds. « Je me demande pourquoi il s'est mis dans cette singulière position, » dit l'officier. « Je me le demande aussi, » grogna Pérol brusquement. « Si nous avions eu seulement 2 pièces de 18 sur cette saillie rocheuse à notre gauche, on aurait pu la démater en 10 minutes. »« Brave vieux canonnier !» fit Réal ironiquement. « Et ensuite, nous jeter à la mer, vous et moi, nos coutelas entre les dents, et aller la prendre à l'abordage, n'est-ce pas ?» Cette saillie fit passer sur le visage de Pérol un sourire grave. « Non, non, » protesta-t-il. « Mais pourquoi ne pas renseigner Toulon à ce sujet ?»« Envoyer une frégate ou deux pour la capturer. Bien des fois, j'ai imaginé sa capture, rien que pour me soulager le cœur. Souvent, la nuit, j'ai regardé par la fenêtre, là-haut, à travers la baie, vers l'endroit où je savais qu'elle était à l'ancre, et j'ai pensé à la petite surprise que je pourrais lui faire si je n'étais pas seulement le vieux Pérol canonnier. » « C'est bon, » dit Réal, les yeux fixés sur le navire anglais qui faisait maintenant route au nord. « Regardez, il a l'air d'avoir enfin perdu son air, » fit-il remarquer, en manière de parenthèse, à Pérol qui aussitôt regarda de ce côté et fit un signe d'assentiment. Pérol leva la tête vers le soleil et déclara qu'il était temps de redescendre à la ferme, manger la soupe. Le visage de Réal s'assombrit aussitôt, mais il se mit en route suivi de Pérol. Au premier tournant du sentier, ils découvrirent en contrebas les bâtiments d'Escampobar, avec les pigeons sur le faîte des toits, les vergers ensoleillés, les cours désertes. Pérol remarqua qu'ils étaient probablement tous dans la cuisine, à attendre son retour et celui du lieutenant. Quant à lui, il mourait de faim. « Et vous, lieutenant ?» Le lieutenant n'avait pas faim. En entendant cette déclaration faite d'un ton bourru, Pérol hocha la tête d'un air entendu derrière le dos du lieutenant. « Ma foi, quoi qu'il arrive, il faut qu'un homme mange. » Lui, Pérol, savait ce que c'était de n'avoir rien à se mettre sous la dent. C'était peu, très peu, que d'admiration pour quelqu'un qui doit travailler ou combattre. Il lui était impossible d'imaginer une circonstance qui l'empêcherait de faire un repas aussi longtemps qu'il y aurait moyen d'attraper quelque chose à manger. Sa loquacité inaccoutumée ne provoqua aucune réponse. Mais Pérol continua à parler du même ton, comme s'il ne pensait absolument qu'à la nourriture, tandis que ses regards erraient de droite et de gauche, et qu'il prêtait l'oreille au moindre bruit. Une fois devant la maison, Pérol s'arrêta pour jeter un regard anxieux au bas du sentier, vers la côte, en laissant le lieutenant entrer dans le café. La Méditerranée, dans la partie que l'on découvrait de la porte du café, était aussi dépourvue de navires qu'une mer inconnue. Le tintement triste d'une cloche fêlée, au cou de quelques vaches errantes, fut le seul bruit qu'il entendit et qui accentuait la paix dominicale de la ferme. Deux chèvres étaient couchées sur le penchant de la colline. Tout cela avait un air rassurant et l'expression anxieuse se dissipait sur le visage de Pérol quand, soudain, l'une des chèvres sauta sur ses pieds. Le forban tressaillit et prit une pose rigide, comme sous l'effet d'une vive appréhension. Un homme dont l'état d'esprit est tel qu'une chèvre qui se lève peut le faire tressaillir n'est pas paisible. L'autre chèvre, cependant, resta étendue. Il n'y avait réellement aucune raison d'alarme, et Pérol, composant son visage pour lui donner autant que possible son expression de placidité habituelle, suivit le lieutenant dans la maison.